montrer le lien qui existe entre la théologie du corps et la doctrine sociale de l'Église. Non pas simplement pour faire comme ça un parallèle entre deux matières de théologie, mais justement pour entrer dans cette perspective qu'a proposé Georges Weigel d'une bombe à retardement qui devrait éclater et se développer au XXIe siècle, et que je qualifierais en plus, moi, d'une bombe à fragmentation, c'est-à-dire qu'il va y avoir des morceaux incandescents qui vont venir toucher tous les éléments de la théologie. Très clairement utile à la théologie du mariage, précieuse pour comprendre la portée de l'encyclique prophétique Humanae Vitae, ouvrant aussi de larges perspectives sur la richesse de la relation conjugale, sans oublier la question de la famille chrétienne, qui est le motif de l'ouverture de ces catéchèses, la théologie du corps ne peut pas se cantonner à certaines restrictions morales ou moralisantes qu'on pourrait en faire parfois, ne peut pas se cantonner au seul domaine de la vie affective et sexuelle ou à l'application concrète d'Humanae Vitae, un point c'est tout. Il s'agit véritablement de montrer comme cette théologie du corps peut donner une envergure à toute la théologie. En cherchant à mettre en évidence par quelques touches, quelques éléments parlant, le lien qui existe entre doctrine sociale de l'Église et théologie du corps, nous voulons simplement montrer comment l'enseignement de Jean-Paul II est d'une très très grande amplitude. Les fragments de la théologie du corps peuvent toucher et enrichir bien des domaines de la théologie. La théologie permet toujours d'approfondir la contemplation de Dieu, et il serait bien paradoxal de vouloir continuer à séparer les différentes matières comme on l'a parfois trop fait. La théologie du corps, on l'entendait hier soir, permet de revisiter l'ensemble de la théologie. Benoît XVI, et là je quitte un petit peu l'enseignement de Jean-Paul II, mais pas complètement, vous allez le voir, dans son encyclique Caritas in Veritate, recommande la lecture de plusieurs documents de doctrine sociale de l'Église. Dès l'introduction, il appuie son encyclique sur Populorum Progressio de Paul VI, qui veut encourager le développement humain intégral. Il brosse un tableau des textes fondamentaux de la doctrine sociale de l'Église, en citant aussi Sollicitudo Rei Socialis de Jean-Paul II, écrite 20 ans après Populorum Progressio, que Benoît XVI qualifie de la nouvelle Rerum Novarum pour l'époque contemporaine. Et puis il écrit ceci, et c'est là que ça nous intéresse énormément. Deux autres documents de Paul VI sont moins directement liés à la doctrine sociale, l'encyclique Humanae Vitae du 25 juillet 1968 et l'exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi du 8 décembre 1975. Ils sont cependant très importants pour discerner le sens pleinement humain du développement proposé par l'Église. Il est donc opportun de les lire en les mettant eux aussi en relation avec Populorum Progressio. Et le pape poursuit en expliquant que l'encyclique Humanae Vitae ne se limite pas à décrire une morale purement individuelle, mais ouvre sur, et je cite, « les liens forts qui existent entre éthique de la vie et éthique sociale ». Tout le cursus de la théologie du corps, qui contribue à une bonne compréhension d'Humanae Vitae, va donc enrichir l'éthique sociale. Et c'est ce sur quoi Jean-Paul II reviendra dans Evangelium Vitae, bien plus tard, en faisant, et Benoît XVI utilise un terme qui pourrait beaucoup nous toucher, il dit que Jean-Paul II fait prendre corps à cette thématique magistérielle initiée par Humanae Vitae. Et, comme dit Jean-Paul II, l'Église propose avec force ce lien entre éthique de la vie et éthique sociale, consciente qu'une société ne peut avoir de base solide si, tout en affirmant, comme la dignité de la personne, la justice et la paix, elle se contredit radicalement en acceptant.